Nous vivons dans un monde où ce sont les forts, les puissants, les riches, les arrogants, les violents qui dominent, qui mènent la danse. Oui, notre monde est souvent, très souvent, trop souvent, une sorte de jungle où c'est encore et toujours la loi du plus fort qui prévaut, qui l'emporte, même si on préfère souvent croire que ce n'est pas vraiment le cas. Mais pour vivre dans ce monde, pour y survivre, pour tirer son épingle du jeu, pour se tailler la part du lion, il faut bien souvent jouer des coudes, défendre son beefsteak, coûte que coûte, sans état d'âme, sans état d'âme au sujet de son prochain. Dans ce jeu-là, dans cette arène-là, il n'y a pas beaucoup de place pour les faibles, pour les gentils, pour les affables, pour les attentionnés, pour les doux. Et nos actualités sont malheureusement remplies d'exemples, nous le confirmant sans cesse. Et pourtant, même si la douceur n'est pas considérée par beaucoup comme une qualité ou une force, mais plutôt comme une faiblesse, c'est bien de douceur comme une vertu dont il va être question ce matin. Dont il va être question dans la troisième béatitude de l'évangile de Matthieu, c'est-à-dire dont il va être question dans la bouche du Seigneur Jésus. Vous le savez, nous sommes engagés depuis le début du mois de septembre dans une série sur les 8 béatitudes de l'évangile de Matthieu, dont c'est le 4e volet ce matin après un volet d'introduction. Si l'ensemble des béatitudes va à contre-courant des valeurs prônées dans notre monde, c'est peut-être la béatitude de ce matin qui est la plus surprenante. Et qui peut-être remporte la palme en déclarant heureux et héritiers de la terre, non pas les violents, non pas les puissants, non pas les riches, mais les doux, les humbles. Quel contre-pied! Quel contre-pied aussi pour les contemporains de Jésus qui attendaient un Messie fort, glorieux, puissant, pour renverser le pouvoir romain. Et voilà que Jésus fait l'éloge de la douceur, fait l'éloge de l'humilité, et voilà qu'il va se présenter quelques chapitres plus loin à ses disciples comme celui qui est doux et humble de cœur. C'était à ne pas y comprendre grand-chose, déjà, pour les contemporains de Jésus. Notons pour terminer ce propos introductif que certains manuscrits inversent les versets 4 et 5, en mettant donc notre béatitude avant celle qui déclare heureux ceux qui pleurent. Sans chercher à trancher la question, il me semble qu'il y a une certaine logique dans l'enchaînement qui est à l'écran. Les pauvres en esprit tout d'abord, puis ceux qui pleurent, puis ceux qui sont doux, et ensuite ceux qui ont faim et soif de justice. En effet, pour pleurer sur son péché, nous l'avons vu, il faut tout d'abord reconnaître sa misère spirituelle. Et puis pour pouvoir être rassasié par le Seigneur de sa faim et de sa soif de justice, qui est le propos de la béatitude suivante, il faut au préalable être doux et humble de cœur. Pour pouvoir s'en remettre à Dieu devant l'injustice, pour pouvoir s'attendre à la justice de Dieu, pour accepter de ne pas se faire justice soi-même. Quelle est cette douceur dont parle Jésus ici ? De quoi parlons-nous ? L'adjectif qui est utilisé en grec, c'est-à-dire dans notre texte, donc, à la base, signifie simplement la douceur de caractère, la douceur d'esprit, la douceur, l'humilité. Et cette douceur vis-à-vis de Dieu est la disposition d'esprit qui s'attend à Dieu, qui accepte sa volonté à notre égard, sans la disputer ou sans y résister. Ainsi, face à l'injustice, face aux méchants, le doux est celui qui s'appuie sur Dieu plutôt que sur ses propres forces. Être doux, c'est donc s'en remettre à Dieu. C'est lui faire confiance en toutes circonstances et en particulier dans l'adversité. Mais attention, la douceur dont nous parlons, ce n'est pas de l'inaction, ce n'est pas de l'indécision, c'est plutôt le refus d'agir par la chair. Le refus d'agir par la chair. Le refus d'obtenir ce que l'on veut par la colère, par la force ou par la violence. C'est le refus de dominer l'autre. C'est le refus de se venger. C'est le refus de se faire justice soi-même en s'en remettant totalement à Dieu. Derrière les béatitudes de Matthieu, beaucoup ont discerné, je pense à raison, le psaume 37. Le psaume 37 où l'on va retrouver toutes les catégories des 8 béatitudes de Matthieu. Je cite une note de la Bible d'études du Semeur qui dit ceci. En fait, l'ensemble des béatitudes semble s'enraciner dans ce psaume, le psaume 37, qui développe le thème de l'héritage de la terre ou du pays. On y retrouve en effet les pauvres, ceux qui pleurent, les affamés de justice, les humbles, les généreux qui ont pitié d'autrui, les purs de cœur, l'homme de paix, les persécutés pour la justice. Les 8 catégories de nos béatitudes. Qu'en est-il des doux ? Qu'en est-il des humbles dans ce psaume 37 ? Quelles sont les exhortations qui leur sont adressées face aux méchants, face à ceux qui font le mal, face à ceux qui commettent l'iniquité, face à ceux qui réussissent dans la vie en faisant le mal? Qu'est-il dit aux doux face à cela? Au psaume 37, et je vous invite, si vous le souhaitez, à le relire cette semaine à la maison, les doux, les humbles, sont exhortés à beaucoup de choses. Je vous en donne simplement la liste. Ils sont exhortés à ne pas s'irriter contre le méchant, à ne pas les envier, à garder le silence devant l'Éternel, à laisser la colère, à abandonner la fureur, à s'écarter du mal, à pratiquer le bien, à rester fidèles à Dieu, à faire de l'Éternel leur délice, à remettre leur sort à l'Éternel, à espérer en l'Éternel et à garder sa voie. Tout cela, c'est ce que le doux est appelé à faire dans l'adversité, face à l'injustice, face aux méchants qui le dominent ou qui cherchent à le dominer. Et que lui est-il promis au doux, au humble ? Il lui est promis dans ce même psaume que c'est Dieu qui lui rendra justice. Il lui est promis que c'est Dieu qui fera paraître sa justice comme la lumière et sont droits comme le soleil à son midi. Il lui est promis que c'est Dieu qui jugera les méchants, qui faneront aussi vite que l'herbe. Il lui est promis que Dieu les retranchera du pays et que Dieu les fera périr. En fait, en tant qu'enfant de Dieu, si je peux accepter d'être doux, et vous avez compris comme moi que c'est pas une chose facile, si je peux accepter d'être doux, c'est parce que je sais que Dieu est fort. C'est parce que je sais que Dieu accomplira ce qu'il a promis. S'il n'y a pas ça, je ne peux pas être doux. Et ainsi, dans la lignée du psaume 37, la douceur dont parle Jésus dans notre béatitude, c'est en particulier face aux injustices, face aux méchants, la confiance que Dieu tient toutes choses dans sa main, malgré les apparences. C'est la confiance que la colère et la rétribution appartiennent à Dieu et à Dieu seul. C'est la confiance qu'un jour Dieu fera justice. C'est la confiance qu'au final, chacun recevra de Dieu sa part. C'est donc un lâcher-prise total qui est en vue ici dans cette troisième béatitude. Le lâcher-prise total auquel étaient déjà exhortés les doux, les humbles dans l'Ancien Testament. Mais alors, est-ce que cette douceur dont nous parlons, est-ce que ça ne serait pas de la faiblesse finalement ? En réalité, face à l'adversité, la faiblesse, ce n'est pas la douceur. Dans l'adversité, la faiblesse, c'est l'usage de la force. C'est l'usage de la violence, c'est ça la faiblesse dans l'adversité. La douceur dont nous sommes en train de parler, elle demande beaucoup de force de caractère. Elle demande beaucoup de conviction. Elle demande beaucoup de courage. Beaucoup plus que la violence. Elle demande beaucoup de maîtrise de soi. La douceur dont nous parlons est une force. Être doux, ce n'est pas être mou. Être doux, c'est refuser la faiblesse de l'agressivité. C'est refuser la faiblesse de la colère qui s'emporte. C'est refuser la faiblesse de la vengeance qui cherche à s'assouvir. Être doux, c'est donc refuser d'agir par la chair, nous l'avons dit, pour agir par l'esprit. Parce que oui, la douceur dont nous sommes en train de parler est une qualité spirituelle. Nous ne parlons pas ici du tempérament doux de certains, que certains ont reçu de leur naissance, comme une prédisposition. Il y a des doux, il y a des nerveux, il y a toutes sortes de tempéraments. Mais on ne parle pas de ça ici. Ce n'est pas de cette douceur-là dont on parle. On parle de quelque chose que seul l'Esprit de Dieu peut produire dans notre cœur. La douceur dont nous parlons, c'est celle que l'on retrouve dans le fruit de l'Esprit. De Galates 5, 22, mais le fruit de l'Esprit, c'est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur. Et vous avez noté que ça vient à la fin, hein, juste avant la maîtrise de soi. J'ai tendance à penser que plus on avance dans le fruit de l'Esprit, plus c'est difficile ou moins c'est évident. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire clairement que je ne peux pas produire la douceur dont nous sommes en train de parler. Elle vient de Dieu. Elle vient de Dieu seul. C'est un don de Dieu. Ça fait partie du fruit de son esprit dans notre vie. Par conséquent, cette douceur n'est possible que dans un cœur régénéré, que dans la vie de celles et ceux qui sont le temple du Saint-Esprit, que dans le cœur de celles et ceux qui font partie du royaume de Dieu, que dans le cœur de celles et ceux qui reconnaissent leur misère spirituelle et pleurent sur leurs péchés. Quand nous faisons le choix de cette douceur, et c'est toujours un choix qu'il nous appartient de faire, quand nous faisons le choix de cette douceur dans notre vie chrétienne, plutôt que celui de l'agressivité, c'est aussi un choix, ou celui de la colère, ou celui de la violence, ou celui de la vengeance. Quand nous faisons le choix de la douceur de Dieu, alors nous choisissons de ressembler à Jésus, qui est doux et humble de cœur. Nous choisissons de faire confiance à Dieu dans la situation qui nous demande de réagir autrement. Nous choisissons la justice de Dieu plutôt que la nôtre. En faisant ce choix, nous refusons la logique ancienne mais toujours actuelle qui demande un œil pour un œil, une dent pour une dent. Nous refusons de résister au méchant et nous lui tendons l'autre joue. Nous refusons de maudire, nous refusons d'haïr nos ennemis. Et nous choisissons de les aimer, nous choisissons de les bénir, nous choisissons de prier pour eux. Chers frères et sœurs, je pense que vous faites le même constat que moi. Ce n'est pas facile. Et il est évident que nous ne pouvons pas y arriver par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas produire cela en nous. C'est impossible. Cela ne peut venir que de l'Esprit de Dieu dans notre vie. Aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Vous avez sans doute, dans les refus que je viens d'évoquer, reconnu des paroles de Jésus. Des paroles qui d'ailleurs suivent de très près les béatitudes de Matthieu, puisqu'elles sont dans le même chapitre, vers la fin du chapitre. Et là, nous lisons, nous comprenons que quand nous agissons ainsi, quand nous agissons par cette douceur de Dieu, alors nous tendons vers la perfection de Dieu. Alors nous sommes des fils et des filles, dit le texte de notre Père Céleste. Vous avez entendu, c'est donc Jésus qui parle, c'est les fameux versets auxquels je faisais allusion, vous avez entendu qu'il a été dit « œil pour œil et dent pour dent ». Mais moi, dit Jésus, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te traîner en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors, vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les péagers aussi n'en font-ils pas autant? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi, eux-mêmes, n'en font-ils pas autant? Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. On reprend notre respiration. C'est Jésus qui le dit, hein, c'est pas moi. Et il est évident, évident, que nous ne pouvons pas produire cette douceur par nous-mêmes. C'est impossible. ça ne peut venir que de l'Esprit de Dieu. Chers amis, quand nous agissons avec cette douceur de Dieu, alors nous ressemblons à Jésus. Lui qui est notre parfait modèle, lui qui est toujours doux et humble de cœur, lui qui ne crie pas, je vous ai mis quelques textes qui font référence à Jésus, lui qui ne crie pas, qui n'élève pas la voix, qui ne brise pas le roseau cassé, qui n'éteint pas le lumignon qui fume, et qui annonce la justice selon la vérité, lui qui est plein de douceur, lui qui, maltraité et opprimé, n'a point ouvert la bouche, semblable à une brebis muette devant ceux qui la tondent, lui qui, bien que l'égal de Dieu, n'a pas cherché à profiter de cette égalité, mais s'est dépouillé lui-même en prenant la condition du serviteur, et en s'abaissant lui-même, en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Lui qui nous a laissé un exemple, dit l'apôtre Pierre, afin que nous suivions ses traces. Quel est cet exemple? Car c'est une grâce que de supporter des peines, 1 Pierre 2, à partir du verset 19, par motif de conscience envers Dieu, c'est une grâce de supporter des peines, par motif de conscience envers Dieu. Quand on souffre injustement, quelle gloire en effet y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir péché? Mais si tout en faisant le bien, vous supportez la souffrance, c'est une grâce devant Dieu. C'est à cela en effet que vous avez été appelés. Parce que Christ lui aussi a souffert pour vous et vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude, lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, souffrant ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. On retombe sur nos pieds, s'en remettre à Dieu. Chers amis, cette béatitude et toute l'Écriture nous exhortent à la douceur. Ça a été pas complètement une découverte, mais je n'avais pas mesuré l'ampleur de tous les textes qui parlent de douceur dans la Bible, dans le Nouveau Testament en particulier. La douceur du Christ, cette douceur que donne l'Esprit de Dieu. Et c'est ainsi que l'apôtre Paul, ça a déjà été lu ce matin, nous exhorte à ce que notre douceur, c'est pas la prédisposition à être cool dans la vie, hein, je le redis, c'est cette douceur qui vient de l'Esprit, que notre douceur, celle qui ne se venge pas, celle qui fait confiance à Dieu dans l'adversité, que notre douceur soit connue de tous, de tous les hommes. Toujours l'apôtre Paul à Timothée, qui dit que nous devons rechercher la justice, oui, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. L'amour, la foi, la piété, l'amour, oui, tout ça c'est la douceur. Toujours l'apôtre Paul qui dit que si nous devons reprendre quelqu'un surpris dans une faute, avec douceur. Et puis Jacques qui nous dit que c'est avec douceur que nous devons recevoir la parole de Dieu, même celle qui nous bouscule, comme sans doute ce matin, la recevoir avec douceur. L'accueillir avec douceur dans notre cœur. Et puis l'apôtre Pierre, enfin, qui dit que nous devons rendre des comptes de notre espérance avec douceur. La douceur, elle est à tous les étages dans la vie chrétienne. Elle doit être à tous les étages dans la vie chrétienne. Toute l'Écriture nous exhorte à être des hommes, des femmes caractérisés par la douceur de Jésus-Christ. Il est donc clair, incontournable, qu'une des caractéristiques des membres du royaume des cieux doit être cette douceur de Dieu que l'Esprit produit en chacun des siens, mais que chacun doit ensuite volontairement choisir de mettre en œuvre. Ça ne se fera pas à notre insu, à l'insu de notre plein gré. C'est un choix qu'il faut faire jour après jour, situation difficile après situation difficile. Le choix de la douceur plutôt que celui de la chair. Et si jamais vous allez relire quelques textes cette semaine, relisez les œuvres de la chair. Mettez-les en face avec l'esprit, ce que produit l'esprit, le fruit de l'esprit. Et vous verrez que c'est quand même très très différent. Ce choix, nous le faisons, nous voulons le faire parce que c'est la volonté de Dieu, pas parce que c'est facile, pas parce que ça nous plaît comme programme, mais parce que c'est la volonté de Dieu. Parce que c'est la volonté de Dieu en sachant qu'un héritage lui est attaché, qu'un héritage lui est promis. Et c'est ce que dit notre béatitude, « Heureux les doux, car ils hériteront la terre. » Car ils hériteront la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est précisément le sens de cette promesse? De quelle terre parlons-nous? Aujourd'hui et depuis l'entrée du péché dans le monde, notre terre est essentiellement, ça l'a été majoritairement pendant des siècles, des millénaires, la venue de la démocratie a peut-être un petit peu atténué certaines choses, mais ça reste quand même la possession des puissants, la possession des riches, des violents, j'en passe. Mais notre béatitude dit qu'un jour, la terre sera la possession des doux. C'est ce que dit notre béatitude, n'est-ce pas? En fait, la terre dont il est question dans notre béatitude, c'est le royaume messianique dont nous avons parlé dans l'introduction, dont Jésus parle abondamment, le royaume des cieux, dans tout le sermon sur la montagne, dont les béatitudes sont l'introduction. C'est donc ce royaume messianique, ce royaume des cieux, qui va prendre toute sa dimension dans la nouvelle création de Dieu, dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, où la justice habitera. Là, il sera plus difficile d'être doux. Parce que la norme, ça ne sera plus l'injustice, ça sera la justice qui habitera. Et voilà, dit notre béatitude, l'héritage des enfants de Dieu. Voilà l'héritage des doux de notre béatitude. Et tout cela, ce n'est pas Jésus qui, tout d'un coup, le sort de nulle part. On le trouve dans le fameux psaume 37 et dans tout l'Ancien Testament. C'est clairement le programme de Dieu depuis le départ. Regardez ce qui est dit dans le psaume 37, quelques versets, qui parlent de ce thème de l'héritage de la terre, de l'héritage du pays. Verset 9, « Car ceux qui font le mal seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Les humbles posséderont le pays, les humbles, les doux, hein, c'est la même chose, et feront leur délice d'une paix complète. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage dure à jamais. » Verset 22, car ceux que bénit l'Éternel posséderont le pays, et ceux qu'il maudit seront retranchés. Verset 29, les justes posséderont le pays, et ils y demeureront à jamais. Verset 34, espère en l'Éternel, garde sa voie, et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Pour le peuple de Dieu de l'ancienne alliance, cet héritage était physique. Il était terrestre, c'était la terre promise à la descendance d'Abraham, c'était le pays de Canaan. Mais cet héritage, il était imparfait, il était incomplet, il n'était que l'ombre d'une réalité bien plus glorieuse et qui est à venir. Cette réalité, c'est ce que la Bible appelle diversement le paradis. Alors là, vous avez toute la liste des synonymes. Le ciel, la vie éternelle, le repos de Dieu, le sein d'Abraham, les nouveaux cieux et la nouvelle terre, le royaume de Dieu, le royaume des cieux, la nouvelle Jérusalem, la patrie céleste, et j'en oublie certainement quelques-uns. Voilà la terre promise de notre béatitude. La terre promise à celles et ceux qui sont doux de la douceur de Christ, qui sont doux parce qu'ils s'en remettent à Dieu. Notons ici que c'est à cause de cette promesse que les doux sont déclarés heureux dans notre béatitude. Oui, ils sont heureux parce qu'ils sont bénis de Dieu. Ils sont heureux parce qu'ils sont les héritiers de ces promesses, et en particulier de celle-là, la promesse de la terre, la promesse de la vie éternelle, la promesse du royaume des cieux. Cet héritage ne s'obtient pas par la force, mais par la douceur de l'esprit, par la confiance en Dieu, par la soumission à Dieu. Quel scénario ! Quel renversement de situation ! Quand un jour les doux hériteront la terre et que les méchants seront dépouillés de tout. Quel scénario ! Comme le dit l'apôtre Paul aux Corinthiens, déjà maintenant, même si ça n'est pas encore visible, déjà maintenant, nous possédons tout, dit-il dans les 2 Corinthiens 6, 10. Nous possédons tout parce que tout appartient à Dieu qui le donnera en héritage aux siens. Mais pour l'heure, ce sont encore les violents, encore les coléreux, encore les irascibles, encore les méchants qui possèdent et qui utilisent leur force pour dominer, pour déposséder. Mais l'avenir est entre les mains de Dieu et l'avenir appartient aux doux de notre béatitude. N'en doutons pas un instant, parce que Dieu tient toujours ses promesses, parce que Jésus a reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre pour accomplir sa volonté, pour accomplir chacune de ses promesses. Bien sûr, comme toutes les promesses, pour nous maintenant, celle-ci doit être reçue par la foi, parce que bien sûr, vous le savez aussi bien que moi, ce n'est pas ce qu'on voit autour de nous. Il faut vraiment la foi pour croire que ça se passera comme ça. Mais on ne le croit pas parce qu'on a envie que ça se passe comme ça. On le croit parce que c'est ce que Dieu dit dans sa parole. C'est une certitude. Les premiers seront les derniers. C'est un autre texte de la Bible. Les derniers seront les premiers. Les doux hériteront la terre. Je termine avec ce dernier passage qui reprend beaucoup de choses que nous avons dites. Romains 12, versets 17 à 21. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance ». C'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. Amen.